à lire ensemble. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, j'ai intitulé ce message « Force, amour et sagesse ». Et j'ai souhaité démarrer ce matin avec ces versets parce que je trouve qu'ils nous font du bien. Et puis, c'est le message premier que Paul veut dire à Timothée. On l'a déjà dit les fois précédentes, Timothée n'était vraiment pas en forme. Hein, si on lui dit « ranime le don qui est en toi », c'est qu'il était plutôt flagada, pas vraiment d'aplomb, le moral et la foi au niveau des chaussettes. Si Paul lui dit c'est pas un esprit de timidité ou dans certaines d'autres traductions de un esprit craintif, c'est qu'il ne devait pas être très vaillant. Au contraire, il devait être plutôt en retrait ou en recul. On l'a lu, Paul évoque même les larmes de Timothée. On ne sait pas dans quelles circonstances Timothée pleurait. Mais ce qu'on comprend, c'est que Paul, son ami, veut l'encourager, le remettre sur pied. Alors on va parler de ces versets, et puis on va finir aussi avec cet exprès du chapitre 3, dans lequel Paul continue à fortifier son ami. Je vous propose qu'on lise maintenant ces versets. Alors je fais clac. Ça marche. Quant à toi, tiens ferme dans tout ce que tu as appris, et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors Timothée, ce n'est pas le jeune assistant de Paul, hein. Ça c'était vrai au tout début. Mais là, quand Paul écrit, c'est peut-être 15, 20, 25 ans, 30 ans plus tard, c'est à la fin de la vie de Paul. Timothée, il avait pris aussi 15, 20 ou 30 ans. Et donc c'était un homme dans la force de l'âge. Peut-être qu'il avait 40, 35, 50 ans. Certains diront qu'il était encore jeune. Timothée fait partie des grandes personnalités, des grands hommes, des débuts de l'expansion de la foi chrétienne. À cette époque, comme de nos jours, les églises subissaient les attaques des hérésies, c'est-à-dire des fausses idées, et puis des dérives sectaires. Et Timothée avait été envoyé pour établir une église particulière. C'est Paul qui l'avait envoyé à Éphèse pour rétablir la vraie foi dans cette église qui était complètement partie à la dérive. Donc Timothée, c'est un grand homme de Dieu. Moi, je pense que c'est le genre de personne, si on pouvait, qu'on aimerait inviter dans notre église pour qu'il nous enseigne un week-end ou pour un carrefour biblique. C'est le genre de personne qui porte quelque chose, qui a à la fois une vraie expérience et puis un vrai vécu dans le domaine spirituel. Et voilà que ce grand responsable spirituel, ce grand homme d'église et puis même inter-église, il n'est pas dans ses baskets, il est raplapla, il est démoralisé. Et moi je trouve que c'est formidable de voir dans le Nouveau Testament une lettre écrite d'un ami à un autre ami pour lui remonter le moral. Alors Paul aurait très bien pu lui dire, enfin je ne pense pas, mais nous, peut-être vous l'avez entendu dans certains milieux, puis même il y a longtemps, dans certains milieux chrétiens on disait « Tu es responsable d'église, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu dois toujours montrer que tu es fort, que tu as une foi sans faille, que tu maîtrises la situation. » Vous n'avez jamais entendu ça? Hein ? Je vois qu'il sourit au fond. Eh bien non, même dans la Bible, on voit Paul qui accueille Timothée dans une situation de faiblesse, de tristesse, de découragement, de foi qui a disparu peut-être. Et son seul but, ce n'est pas de l'enguirlander, mais de l'encourager. Il lui dit, tu peux être dans un état critique, tu peux en faire part autour de toi, de tes inquiétudes, de ta faiblesse, de ton manque de foi. Alors pourquoi en parler ? En général, on n'aime pas trop parler de ce qui ne va pas. Ben, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour éviter de faire semblant. Vous avez noté que Paul lui dit que sa foi est sincère, sans hypocrisie. Il ne fait pas semblant. Et puis la deuxième raison, qui est la plus importante, pourquoi parler de nos découragements ? Ben, c'est pour que tu puisses recevoir des encouragements de la part des autres, de ceux qui t'entourent, de ceux qui t'aiment, de ceux qui tiennent à toi. Vous avez noté, Paul lui dit, « Je rends grâce à Dieu, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. » Ça, c'est très intéressant, parce que Paul, pour encourager son ami, non seulement il lui envoie une lettre, hein, bon, ils habitaient dans deux villes différentes, hein, on pense que Paul était à Rome, et donc Timothée à Éphèse, vraisemblablement, donc à plusieurs milliers de kilomètres, donc il envoie un courrier, mais en plus, il prie pour lui régulièrement. Ça, c'est une bonne indication pour nous aussi. Alors on va changer de... Vous avez noté aussi que Paul va parler de ses ancêtres. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. Et puis il va parler des ancêtres de Timothée, de la foi sincère qui était dans sa grand-mère et puis dans sa mère. Alors je ne crois pas que ce soit une coïncidence que tout d'un coup Paul fasse référence à ceux qui étaient avant lui et ceux qui étaient avant Timothée. Paul parle de ses ancêtres qui ont servi Dieu, comme lui. Et il lui rappelle que lui, Timothée, sa foi, elle a transité par sa grand-mère, puis sa mère, puis lui. Pourquoi ? Pourquoi Paul parle ainsi ? On sait que la foi n'est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas par la vie naturelle. Chaque être humain est appelé à recevoir la foi indépendamment de ses parents et de ses ancêtres. Alors pourquoi Paul parle-t-il ainsi ? Je crois que Paul veut lui rappeler à Timothée que tout chrétien s'inscrit dans un héritage, dans des racines, dans une suite humaine. Et ça, c'est une caractéristique de la foi. À la fois, elle provient de Dieu, et à la fois, elle se transmet dans les générations, de génération en génération. C'était un exemple pour Timothée, sa grand-mère et sa mère. Pour Paul, lui, son exemple, c'était ses ancêtres. Hein, dans une autre lettre, il dit « Moi, Paul, hébreu, né d'hébreu, de telle tribu, etc. etc. » Il fait référence à toutes les générations entre Moïse et lui, peut-être même jusqu'au patriarche, jusqu'à Abraham. La foi se transmet de génération en génération. Et chaque génération est appelée à la transmettre à la génération suivante. Nous qui l'avons reçue, nous ici, aujourd'hui, 16 février, nous sommes reconnaissants pour les générations précédentes qui nous ont transmis la foi. Et notre appel, notre vocation, c'est de la transmettre à notre tour, pour que la génération qui viendra après puisse continuer à avoir la foi. Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Nous bénéficions de ceux qui ont été avant nous, de même que ceux qui viendront après nous bénéficieront de ce que nous leur aurons laissé et transmis. Alors, nous qui vivons au XXe siècle en France, nous pouvons nous rappeler de tous ceux qui ont été avant nous. Alors, je ne vais pas faire la liste, hein, je ne vais pas condenser 20 siècles en quelques minutes, mais rien que dans notre histoire de France, rappelons-nous tous ceux qui se sont battus pour que la foi sincère arrive jusqu'à nous. Tous ceux qui se sont battus pour que la Bible arrive jusqu'à nous. Vous vous rappelez qu'à une époque, c'était interdit de lire la Bible, même d'en avoir une. On était passible de prison, de galère, etc. C'est important de se rappeler aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix de leur vie pour qu'elle soit traduite dans notre langue, pour qu'elle soit imprimée sur du papier. À l'école, on apprenait Gutenberg. Vous vous rappelez Gutenberg? Gutenberg, son objectif, c'était d'imprimer la Bible dans sa langue, dans la langue de son pays, pour qu'elle soit répandue partout. Bon, il en a profité pour inventer l'imprimerie moderne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la Bible est disponible sur Internet. Elle est largement diffusée. Mais il y a aussi ceux qui se consacrent pour faire des traductions récentes. Combien c'est important. En France, dans la langue française, on a la chance d'avoir de nombreuses traductions qui sont révisées régulièrement tous les 10, 15, 20 ans, parce que la langue évolue. Et bien sûr, quand on lit une traduction du 19e siècle, ben, ce n'est pas la même langue qu'aujourd'hui, donc on risque de comprendre des choses de travers. Et bien sûr, ce n'est pas une communauté comme la nôtre qui peut financer la traduction de la Bible. Non, ça, par contre, on y contribue, nous, au travers de notre union d'église, par exemple. Alors c'est important de connaître ses racines. Bien sûr, pas pour rester focalisé dessus, faire de l'archéologie et tout ça, c'est pas intéressant. Mais c'est pour pouvoir aller de l'avant. L'histoire de l'Église, l'histoire des Églises est importante. Alors ici, notre Église, nous, là, à Nîmes, notre Église, elle compte 40 ans d'histoire. Mais c'est rien. Et puis surtout, elle n'est pas née toute seule. Elle n'est pas née spontanément comme ça. Hein, elle est pas, c'est pas un truc hors sol là, qui a apparu comme un champignon, non. Elle est inscrite dans une histoire. Et là, c'est encore l'autre intérêt des unions d'Église, c'est de porter cette histoire. Dans notre union d'église, il y a le mot baptiste. Je ne sais pas si vous savez de quand datent les premières églises baptistes et où est-ce qu'elles sont nées. Amsterdam, oui. Voilà. Ça date des années 1608. En France, aux Pays-Bas, en Angleterre, il y a un nouveau mouvement de réveil après celui de l'époque de Luther et de Calvin, il y a eu un nouveau mouvement de réveil, et c'est là qu'ont émergé des églises qu'on a appelées baptistes. C'était il y a 400 ans. Et nous, qui sommes issus de cette branche, à la fois protestante et à la fois baptiste, c'est des valeurs pour nous. Alors bien sûr, il y a eu d'autres mouvements de réveil depuis, il y en a eu tout au long des siècles. Hein, la réforme a été une époque de réveil, mais rien qu'au XXe siècle, il y a eu le fameux réveil du début du siècle, là, c'était quoi, Rosa Street, c'est ça? Voilà. Et puis il y a eu, plus proche de nous, dans les années 70-80, ce qu'on a appelé le renouveau charismatique. Et ça, c'est ce qui a fait émerger notre église, comme des milliers d'églises en France. Hein, ça, c'est notre histoire. Donc il y a vraiment une histoire avant nous. Et c'est important qu'on la connaisse, pour savoir d'où on vient. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de savoir où on va pouvoir aller. Et cette histoire qui est derrière nous, nous aujourd'hui nous sommes appelés à contribuer à écrire la page d'aujourd'hui. Tous ces gens derrière nous qui ont mené le bon combat, ils sont là et ils nous disent « Vas-y, c'est à ton tour maintenant. » Alors, on va avancer. On va revenir à Paul et Timothée, si tu veux bien avancer. Et puis, donc ensuite, Paul invite Timothée à ranimer le don de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi avoir déjà entendu des prédications sur ce texte. Souvent, on entend « ranime le don que tu as reçu ». Et hop, on part sur le don. Alors, tu as le don de ci, le don de ça, la musique, les contes, le ceci, etc. Et puis on part dans le don que tu as reçu, mais le au service de ton église, de ton quartier, de ceci, de cela. Bon. Ranimer le don. Alors c'est un très bon message de remettre ses dons et ses compétences au service des autres, mais je ne crois pas que ce soit le message de ce texte. Parce que si vous regardez bien, Paul ne dit pas à Timothée de ranimer le don, donc il ne lui dit pas « redeviens, je ne sais pas ce qu'il était, pasteur ou responsable de l'église aussi », non, non. Il lui parle de quelque chose d'autre. Regardez bien ce qui est écrit. Il lui dit « ranime le don de Dieu ». Ce n'est pas tout à fait pareil. Il s'agit du don de Dieu. Qu'est-ce que c'est le don de Dieu? Alors peut-être on pourrait dire que le don de Dieu dont il s'agit, c'est la foi, parce que Paul vient d'en parler un petit peu. La foi est un don de Dieu. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nous qui la créons ou qui la fabriquons. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas nous qui la créons ou qui la fabriquons. Ce n'est pas nos bonnes prières, nos bonnes pratiques. Ce n'est pas ça qui va fabriquer la foi. Non, elle nous est donnée. Peut-être que vous pensiez que vous pouviez fabriquer votre foi pour qu'elle soit plus importante, plus profonde, plus je ne sais pas quoi. Mais non, elle nous est donnée. Donc si tu en veux plus, si tu en manques, il suffit de la demander. Mais je crois que Paul veut parler d'autre chose que de la foi ici, quand il dit « ranime le don de Dieu ». Qu'est-ce que c'est le don de Dieu ? Ben, il le dit au verset juste après. C'est Dieu qui s'est donné lui-même. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ? Au verset 7, il dit juste après, il nous a donné un esprit. Il nous a donné son esprit. Alors, bien sûr, Dieu s'est donné pour nous en Jésus, qui est mort sur la croix d'une manière historique, qui est ressuscité de manière historique, à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Mais Dieu se donne aussi à nous de manière individuelle, spécifique, pratique, concrète, permanente. Dieu se donne à notre vie par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le don de Dieu, le Saint-Esprit. Et puis on va voir. Il lui rappelle, hein, Dieu nous a donné son esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul dit à Timothée, ranime la flamme de ta foi, ranime la flamme du don de Dieu, ranime la flamme du Saint-Esprit qui est en toi. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est que Paul dise à Timothée, ranime. Timothée est en déliquescence, et Paul pourrait plutôt lui dire, ben, fais-toi ranimer, trouve quelqu'un qui va te ranimer. Non. Il lui dit, ranime, c'est à toi de le faire. C'est à toi de prendre ta vie en main, de faire quelque chose, d'être acteur de ta vie. Il aurait pu lui dire, va au culte, va voir ton pasteur, demande à ce qu'on prie pour toi, pour être animé. Non, il lui dit, ranime, c'est à toi de le faire. Voyez-vous, je crois qu'on a des fois une vision un petit peu trop passive et attentive de notre foi. C'est à nous de nous prendre en main. Ranime le don de Dieu. Alors certainement, Paul encourage Timothée à se souvenir que Dieu est présent dans sa vie. Souviens-toi de la présence de Dieu en toi, de son esprit, son souffle, son action immatérielle. Mais je trouve que ça peut rester très abstrait. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Parlons un petit peu de notre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Dans notre être intérieur, on distingue plusieurs composantes. Nos émotions, nos sentiments, notre mémoire, et puis bien sûr notre pensée, notre imagination, notre intuition, notre raisonnement, notre intelligence. Tu veux bien avancer ? La Bible nous apprend aussi que nous avons un esprit. Dieu nous a donné son esprit. Et son esprit est venu réveiller, ressusciter notre esprit humain. Pour être unis à lui. La question qui se pose, c'est comment interagissent toutes ces dimensions en nous, dans notre être intérieur. La vraie question, c'est qui est-ce qui domine ? Est-ce que c'est la pensée, le raisonnement ? Est-ce que c'est ton imagination ? Est-ce que c'est tes émotions ou tes sentiments qui ont le dernier mot dans ton être intérieur ? Ou bien, est-ce que c'est ton esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu ? Qui a le dernier mot ? Qui parle le plus fort ? Parce que si c'est notre intelligence, notre raisonnement, nos émotions, notre imagination, tout ça, ça reste au niveau de notre être naturel, hein, notre être psychique, comme dit Paul, ce que nous avons reçu à la naissance, ce qui est naturel. Paul utilise un autre mot, hein, dans ses lettres, il dit « charnel ». Bon, c'est notre constitution, on est comme ça. c'est du domaine charnel. Et puis Paul nous rappelle que la chair et l'esprit ont parfois des désirs opposés. Des fois, nos émotions, notre raisonnement nous poussent à des choses qui sont opposées à celles de l'esprit en nous. C'est pour ça que nous devons apprendre à laisser notre esprit, celui qui est uni avec l'esprit de Dieu, avoir le dernier mot, à prendre les décisions finales, à être celui qui domine dans notre être intérieur. Nous devons apprendre à soumettre les composants de notre être intérieur à notre esprit, car c'est notre esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas nos émotions ou nos raisonnements. C'est alors seulement que notre intelligence peut être renouvelée, que nos émotions et nos raisonnements peuvent être réorientés dans la soumission à l'esprit. Alors pour illustrer ça, vous connaissez le film « Vice Versa », hein ? Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, très intéressant, où il y a à l'intérieur d'un petit personnage, il y a toutes les composantes justement qui s'animent. Et puis dans le film, c'est la composante de la joie qui gagne le dessus. Donc c'est très joli. Hein. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est une autre composante qui doit gagner le dessus. C'est notre esprit, celui qui est uni avec l'esprit de Dieu. Alors je referme la parenthèse. Peut-être que Timothée avait laissé ses sentiments, sa fatigue, la difficulté de sa tâche prendre le dessus sur sa foi, sur son esprit. Il s'est découragé. Il a davantage écouté son être intérieur, ses émotions, son raisonnement. Peut-être il lui disait « Tout ce que tu fais, mon pauvre Timothée, ça suffira jamais. » D'autres paroles de découragement comme ça. Vous avez remarqué comme on est très fort pour créer des paroles de découragement. Hein ? Peut-être que Timothée se disait « Tu es nul, tu arriveras jamais. Tu arrives de toute façon jamais à rien. Hein » Peut-être il écoutait ça en lui et ça le minait, je ne sais pas. Mais Paul lui indique comment se réorienter. Arrête d'écouter autre chose que ton esprit, celui qui est uni avec le Saint-Esprit. Réapprends à écouter le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton esprit. Alors, petite question, est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier d'écouter le Saint-Esprit dans votre esprit? Les réformateurs parlaient du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Je crois que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors nous avançons, que produit le Saint-Esprit en nous? C'est le verset 7 qui en parle donc. Hein. Ce n'est pas un esprit de timidité ou dans certaines autres traductions de lâcheté ou de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors la sagesse, ce n'est pas la science infuse, hein, ou non, c'est très concrètement, toujours dans la Bible, c'est savoir se comporter comme il faut dans les situations de la vie, savoir quoi faire. C'est pour ça que des fois c'est aussi traduit par la maîtrise de soi ou la pondération. Alors quand on lit ce verset un petit peu trop rapidement, on se dit « Super ! Le Saint-Esprit me donne de la force, je suis fort ! Il me donne de l'amour, j'aime ! Il me donne de la sagesse, je fais toujours les bons choix ! Je ne me trompe jamais !» Alors, est-ce que Paul est en train de dire à Timothée que le Saint-Esprit nous rendrait invulnérables? Je crois que ce n'est pas tout à fait ça dans la réalité. Je ne sais pas vous, mais moi, la force, je ne l'ai pas toujours. Et l'amour, encore moins. Et la sagesse, c'est encore plus compliqué. Donc, quand on lit ça, on lit que le Saint-Esprit nous communique de la force, de l'amour et de la sagesse. Donc c'est une réalité spirituelle, peut-être c'est une promesse spirituelle à s'approprier, mais je crois que ce n'est pas du tout automatique. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que la sagesse crie au coin de la rue, mais on ne l'entend pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au coin de la rue. Donc il faut sortir et aller là où la sagesse se trouve. Et le Saint-Esprit nous communique ces choses pour autant que nous fassions cas de lui, qu'on le prenne au sérieux, qu'on l'interroge, qu'on lui pose des questions, qu'on lui demande, qu'on se mette à son écoute. L'Esprit qui nous donne la foi, la force, l'amour, la sagesse. Voilà les choses que l'Esprit peut produire en nous, si on lui donne l'autorisation, en quelque sorte. Ah mais tiens, tout d'un coup, ça me rappelle quelque chose. Force, amour, sagesse. Mais dites donc, ça ne vous rappelle pas quelque chose à vous aussi? Un jour, un épisode de la vie de Jésus. Un jour, des gens mal intentionnés tendent un piège à Jésus et lui disent « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus répond tout simplement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Amour, force et sagesse. On est en plein dans le thème là. Vous voyez le lien entre ce commandement et ce que produit le Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit nous réoriente vers le premier commandement. Et puis bien sûr, on a autant besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le deuxième commandement, qui lui est semblable, ça veut dire qu'il y a autant d'importance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu t'aimeras. C'est tout un programme. Tu t'aimeras. Et puis tu aimeras ton prochain. Donc pour tout ça, nous avons autant besoin d'amour, de force et de sagesse. Donc Paul est en train de rappeler à Timothée, lui dont la foi vacille, que c'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui peut lui redonner tout ce dont il a besoin sur le plan spirituel, tout ce que Dieu attend de lui. Et vous comprenez, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de quoi y répondre concrètement, si nous lui demandons. Aime Dieu de tout ton cœur. Le Saint-Esprit te donne l'amour. Aime Dieu de toute ta force. Le Saint-Esprit te donne la force. Aime Dieu de toute ta pensée. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Nous savons bien que vis-à-vis de ces deux commandements, déjà rien que le mot nous fait frémir, de recevoir des commandements. On n'aime pas ça. Hein. Mais nous savons bien que nous serions incapables par nous-mêmes d'y répondre. N'est-ce pas? Et ça fait aussi partie de la grâce qui nous est donnée dans la foi en Jésus. Notre salut nous est offert. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Jésus s'est occupé de tout. Et notre vie spirituelle aussi, elle nous est offerte par le Saint-Esprit en nous. Nous recevons ce qu'il faut pour vivre cela. Ce n'est donc pas un esprit de timidité ou de crainte, car même si nous sommes complètement incompétents pour répondre à ces deux commandements, donc on pourrait être un peu intimidé vis-à-vis de Dieu, ben, je ne suis pas vraiment à la hauteur. Ma vie, ne sois pas timide. C'est le Saint-Esprit qui te donne tout. Alors j'avance, parce que je vois que la pendule avance aussi. Et pour finir, donc, je voudrais sauter directement, sans transition, à ce dernier extrait du chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure. Là encore, Paul encourage son ami Timothée. Hein, il lui dit « Timothée, tu es au fond du trou, mais tu vas te relever. Tu connais les Saintes Écritures. C'est ça qui t'a apporté la foi, le salut. Tu te rappelles depuis ton enfance ?» Alors le verset 15, je crois que c'est un précieux encouragement pour tous les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes, tous ceux qui enseignent les enfants et les ados dans l'église. Ce point-là est aussi important. Nous avons besoin de revenir aux Écritures pour y trouver de quoi renouveler notre foi, parce que nous en avons besoin. Et aussi dans notre témoignage, nous avons besoin d'orienter les gens vers l'Écriture, vers la Bible. Alors pourquoi? C'est le slide suivant. Ben Paul le rappelle, parce que l'Écriture, la Bible, est inspirée. Inspirée par qui? Inspirée de Dieu. Alors le mot inspiré, ça parle du souffle, évidemment. Hein, et on voit, en quelque sorte, le jeu de mots, la comparaison entre le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, et puis ce qu'on va trouver dans la Bible. Au contact de l'Écriture, notre esprit, qui est uni avec l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, il rentre en résonance avec l'inspiration des Écritures. Et Paul rappelle que la parole est utile. Elle sert à quelque chose. Elle est utile pour plusieurs choses. Pour enseigner. Donc enseigner, c'est pour faire connaître. Hein, mais au-delà de connaître, les choses les plus importantes, c'est de faire découvrir. On découvre des choses. La parole nous aide à découvrir qui est Dieu, le monde de Dieu. On découvre, on apprend. Tiens, je ne savais pas ça. On reçoit des bonnes nouvelles. Elle est utile pour convaincre. Convaincre. On a besoin d'être convaincu. Parce qu'on n'y croit pas toujours. Hein, ça rentre dans nos raisonnements. Ça rentre en nous. Puis ça nous transforme. Elle est utile pour redresser. Ben, des fois, on est un petit peu tordu. On peut comprendre aussi ce mot. On est courbé et on se remet droit. Mais des fois, on a des idées tordues sur soi ou sur Dieu. Par exemple, dans nos sociétés, je pense que la majorité des personnes, des gens de la rue, pensent que Dieu, s'il existe, c'est un être en colère, irascible et très sévère. Ben, la Bible, elle nous apprend tout le contraire. Elle nous apprend que non, il est rempli de tendresse et de compassion. Ou alors d'autres, peut-être, dans notre monde, pense que Dieu a créé le monde il y a très 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 longtemps, mais depuis, il s'en désintéresse complètement. Eh bien non, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu est attentif à tout ce qui se passe sur la terre. Combien il y a de psaumes qui disent que Dieu se penche vers la terre pour voir chaque homme, chaque femme. Une autre idée tordue, c'est qu'on pense que, bon, Dieu nous aime, mais qu'on n'est quand même pas digne de son amour. Et alors la Bible, quand on la lit, on se rend compte que Dieu nous dit, si, si, tu es mon enfant bien-aimé. Donc vous voyez, il y a beaucoup de fausses idées à détordre dans nos esprits. Et la Bible, elle est là pour ça. Elle est utile pour éduquer dans la justice, dans ce qui est juste. Là encore, c'est tout un programme. Et ça parle de progression. Il y a un point de départ, il y a une route, il y a un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est celui-ci. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit équipée et préparée pour toute œuvre bonne. N'est-ce pas ça que nous souhaitons ? Être équipé et préparé pour faire des œuvres bonnes, pour faire des réalisations valables ? Revenons à la parole. Alors, je sais que sur Internet, de nos jours, nous avons de magnifiques prédications, des messages, on a tout, plein de choses. Tout et son contraire aussi. Et souvent, on trouve des belles choses. C'est agréable, c'est nourrissant. Mais je crois que ça ne remplace pas le contact réel, personnel, avec l'Écriture. Notre vie spirituelle ne peut pas se faire uniquement au travers de celle des autres. Nous sommes appelés à lire, à étudier personnellement, à approfondir notre contact avec la Bible, avec les Écritures, à sentir cette résonance entre l'esprit qui a inspiré la Bible et puis l'esprit qui vit dans notre esprit. Alors je vais m'arrêter là pour ce matin et je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ceux qui nous ont permis d'entendre l'Évangile, ceux qui nous ont transmis la foi, ceux qui ont été avant nous et grâce à qui nous avons pu te connaître. Merci pour ceux qui ont permis de conserver la Bible, de pouvoir la lire, la comprendre. Merci aussi pour ce merveilleux cadeau, cette parole, cette écriture inspirée qui vient nous éduquer, nous redresser, nous faire découvrir. Nous voulons bien sûr te remercier pour ce que Jésus a accompli pour nous à la croix et pour sa résurrection. Et nous voulons aussi te remercier pour le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et qui nous aide au quotidien pour t'aimer, pour répondre à tes commandements et pour répandre la foi. Apprends-nous, Seigneur, à écouter davantage ton esprit que nos raisonnements, nos pensées ou nos émotions. Nous voulons soumettre toutes les composantes de notre être intérieur à notre esprit qui est uni à ton esprit. Donne-nous la facilité de nous mettre au contact avec l'Écriture pour être encouragés, redressés, éduqués. Donne-nous aussi la joie et la capacité de transmettre à notre tour la foi pure, sincère, sans hypocrisie, à notre génération et à la génération suivante. Amen.